Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, un nouveau podcast Draft sur Touchdown Actu. On continue notre présentation des positions et aujourd'hui une position vraiment hyper importante, c'est la position de tackle offensif, voilà, pour protéger le quarterback de votre franchise, pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol. Ce sont des joueurs vraiment fondamentaux, on en a absolument besoin. Tous les ans à la draft, ils sont très très cotés. Cette année, il y en a facilement 4, peut-être 5, peut-être même 6 qui vont partir au premier tour. C'est une très belle cuvée. Et pour en parler, je suis accompagné de Kevin Zermatten. Salut Kevin, ça va ?
Hello, ça va bien et toi, merci.
Bah oui, tout va bien, écoute, on parle draft, ça nous fait plaisir, le draft process approche, on est en plein dedans, on est tout excité, et en plus, voilà, c'est une super cuvée, vraiment offensive tackle, moi c'est une des positions que je préfère, et cette année on a des super candidats, et notamment un, ça fait 3 ans qu'il est très bon à l'université de Northwestern, au nord de Chicago, il s'appelle Peter Skoronski.
Oui, alors c'est vrai que c'est il vient pas de la plus grande université ou on va dire oui, c'est une grande université mais dans le sens au niveau du football ces dernières années, c'était pas forcément ce qu'il faisait de mieux, on va dire. Il a pris la suite de Rashan Slater durant la saison Covid, donc il a jamais vraiment regardé en arrière comme disent les Américains, il a fait 3 saisons du coup titulaire à Northwestern. Peter Skoronski, c'est un athlète qui est déjà assez polyvalent parce qu'il faisait de l'athlétisme, il a fait du basket. Enfin, c'est un gars qui est à l'aise dans les activités sportives, on va dire. Donc ça peut forcément l'avantager un petit peu dans ce qu'il fait maintenant. Ce que je trouve cool avec lui, c'est que il peut affronter beaucoup de profils de rusher. Il a joué left tackle donc à Northwestern pendant 3 ans. Il a eu beaucoup de différentes positions et puis il s'en sort toujours plus ou moins bien parce que il a justement le bas du corps et ses jambes qui sont très mobiles. Il arrive à se mettre dans de bonnes positions, il s'adapte à son adversaire assez facilement et puis il est fluide dans ses mouvements. Ça c'est vraiment très important. On a souvent justement des joueurs qui sont un petit peu raides ou comme ça, qui sont un petit peu plus bas dans les boards. Là vraiment c'est quelqu'un qui est très mobile. Il est capable d'aller rapidement bloquer aussi sur le deuxième rideau. Moi, je le trouve justement assez bon aussi dans un petit peu dans les poules, on va dire aussi. Quand il bouge un petit peu sur la ligne, les blocs qui sont un petit peu à l'horizontale aussi pour aller ouvrir une brèche pour le running back par exemple. Pour moi, c'est un titulaire jour 1 maintenant. Ça pose la question un petit peu de à quel poste. Là, on l'a en tackle, en tout cas dans cette émission. C'est vrai qu'il y a en tout cas un débat qui peut être ouvert sur la question de tackle ou guard, parce que justement il a ses fameux bras courts par rapport à sa taille, par rapport à son gabarit. C'est vrai qu'il a plutôt des bras qui sont assez courts et qui pourraient un petit peu poser problème, on va dire, au niveau de l'allonge contre les pass rushers en NFL et toutes ces choses-là. Il a un petit peu de la peine face aux rushers rapides, on a déjà pu le voir quelques fois un petit peu au niveau universitaire. Et puis justement, comme je disais, il a la rapidité pour aller faire des blocs sur le deuxième rideau, mais des fois il les rate un petit peu aussi, peut-être justement par ce manque d'allonge, peut-être un petit peu par un manque d'anticipation, je sais pas exactement. Et puis c'est un joueur qui est fluide, comme je disais avant, mais pas forcément non plus explosif, je trouve. Il a une bonne fluidité dans ses mouvements, c'est assez naturel, mais il manque un petit peu d'explosivité à mon avis. Et puis voilà, en fait, ça baisse un petit peu sa valeur dans un draft parce que ben en fait c'est surtout l'aspect du poste qui baisse un petit peu sa valeur dans la draft parce que ben il y a pas mal de gens qui se posent des questions là-dessus.
Oui, c'est ça exactement. Franchement, Peter Skoronski, c'est un super joueur. Voilà, déjà on va commencer par ça. C'est un super joueur. C'est un premier tour de la draft. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, comme tu l'as dit, ben oui, c'est par rapport à un petit peu à son gabarit. Alors tout est relatif évidemment, mais la NFL, il y a que de toute façon des mastodontes et lui, ben il manque un petit peu d'envergure. Et c'est vrai que c'est important pour les duels, notamment le premier contact avec l'edge rusher qui va lui foncer dessus, les bras en avant, qui va faire des mouvements. Et lui, donc comme tu dis, il a un petit peu ce déficit d'allonge qu'on peut retrouver ben, chez les boxeurs, chez les judokas, etc. Mais c'est également valable pour le football américain. Il en manque un petit peu quand on regarde son gabarit. Finalement, ben, il a le même gabarit, la même envergure que Zach Martin, voilà, qui lui aussi était tackle à l'université de Notre-Dame et qui finalement est passé guard en NFL. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site la fiche écrite par Victor Roulier et justement, il utilise Zach Martin en comparaison. Donc voilà, c'est un petit peu ceux qui jouent contre lui, ce gabarit, un petit déficit, parce que sinon, techniquement, il est très très fort. Et puis, de toute façon, que ce soit tackle ou guard, c'est vraiment un super joueur. Donc, regardez Zach Martin, ce qu'il est devenu. Non, il n'a pas joué tackle, mais c'est un all-pro en tant que guard. Donc, finalement, l'un dans l'autre, que ce soit guard ou tackle, de toute façon, l'équipe qui va le récupérer va récupérer un super joueur. Moi, je vais enchaîner avec un joueur très différent parce que lui, justement, il manque pas du tout d'envergure. Il est très grand, il a une superbe envergure. Il s'appelle Paris Johnson. Il vient d'Ohio State. Alors, je vais en parler, mais peut-être que tu aurais voulu en parler, Kevin, puisque je te vois. Moi, j'ai la chance de te voir et je vois que tu as un superbe hoodies Ohio State. Donc, voilà, tu fais honneur à Paris Johnson, mais tu auras l'occasion de nous parler d'un joueur d'Ohio State juste après. Moi, j'y vais sur Paris Johnson. Voilà ce que j'aime beaucoup chez lui. C'est déjà, ben, c'est une recrue 5 étoiles. Donc, le joueur pétri de talent dès le lycée, on le connaissait. C'est vraiment un joueur plein de qualités, pas seulement physique, même technique. Après, voilà, c'est parfois le souci des joueurs qui vont dans les très gros programmes. Et donc, du coup, à Ohio State, ben, Paris Johnson a dû patienter. Voilà, parce qu'au poste de tackle, il y avait Tyer Munford qui est aujourd'hui aux Raiders, il y avait Nicolas Petitfrère qui est aujourd'hui aux Titans, donc il a dû patienter. Bon, alors, quelque part, ça lui donne un petit avantage aussi, ça lui a permis de jouer guard. Voilà, il jouait garde droit en 2021 et il est passé tackle gauche pour la saison 2022. Donc ça lui a donné de l'expérience, mais quelque part, ça lui a enlevé un petit peu aussi des situations de jeu au poste de tackle gauche, et on va le voir, c'est peut-être ce qui lui fait défaut. Paris Johnson, voilà, comme je l'ai dit, physiquement, il est très grand, il a une superbe envergure, il est très mobile, et puis alors techniquement, voilà, techniquement, il y a un truc avec lui, c'est que parfois, il est juste, mais parfait. Parfait. C'est-à-dire qu'il joue bas sur ses appuis, il se sert très bien de ses longs bras, il a un bon ancre, c'est-à-dire l'ancrage des pieds au sol, il a un très bon équilibre. Vous savez, c'est l'équilibre, les épaules, les hanches, les pieds, voilà, en plus il est bas sur ses appuis. Il a également une très bonne fluidité des hanches quand il faut changer de direction, quand il faut pouvoir se mouvoir latéralement. Il a vraiment, mais tout, 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 il est parfait techniquement, mais seulement par séquence. Voilà le souci avec Paris Johnson, c'est qu'il est encore trop irrégulier et c'est peut-être dû au fait justement qu'il n'a pas eu encore suffisamment de situations de jeu à ce poste-là. Parce que ben oui, il n'a qu'une seule saison en titulaire, en left tackle, et ça se voit. Donc du coup, il y a encore du coaching, c'est un superbe matériel. Si on peut parler comme ça, il a vraiment tous les attributs, tout ce qu'il faut, que ce soit physiquement, même techniquement. Donc, par flash, il a montré de très belles choses, mais il y a encore du travail. Et donc, quelque part, il me fait un petit peu penser à Andrew Thomas des Giants. Voilà, Andrew Thomas, il arrive dans la ligue avec ce même type de gabarit, ce même type d'attributs physiques, etc. Et on a bien vu qu'aux Giants, il a bien fallu 1 an, 2 ans. Il y avait du coaching pour qu'il soit plus constant. Et puis, ben, ça a été payant. Donc, du coup, Paris Johnson, ça pourrait lui aussi, avec un petit peu de patience, c'est un pari très payant.
Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, on sait jamais exactement ce que ça va donner, mais c'est vrai que, ben voilà, en fait, je pense qu'il lui faut simplement de l'expérience. Et puis, il va réussir à justement apprendre derrière peut-être un joueur qui est en fin de carrière, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est relativement un projet quand même, comme tu dis. Il faudra probablement 1, 2 années. Mais il y a vraiment le matériel pour faire justement un vrai titulaire et même peut-être Bon, un Pro Bowler, comme disait, je crois, Alain l'autre jour, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais en tout cas, peut-être même un All-Pro. En tout cas, il a vraiment la capacité d'être un titulaire très très solide dans l'NFL.
Ah ouais, c'est vraiment un beau pari, un bel investissement au premier tour, Paris Johnson. Et donc, tu vas enchaîner avec son coéquipier à Ohio State. Alors, lui, il semble davantage prêt, mais il a peut-être un petit peu moins de potentiel. Paris Johnson était le tackle gauche et lui, c'était le tackle droit. C'est un monstre, c'est une montagne. Voilà, c'est un roc, c'est un pic, c'est une péninsule. Il s'appelle Dawan Jones.
Oui, alors je ne sais pas s'il a moins de potentiel, mais il est peut-être un petit peu plus limité, on va dire, dans ce qu'il peut faire. Il va être plus, on va dire, on va lui trouver un secteur, il va le faire très bien. Il va peut-être pas tout pouvoir faire, mais je pense que justement, il va pouvoir vraiment apporter quelque chose à l'équipe qui le sélectionnera. C'est vrai que c'est un gabarit qui est monstrueux. Moi, je trouve qu'il a un relativement bon QI de football. Il reconnaît assez bien les systèmes défensifs. Il s'ajuste assez bien. Moi, bah, il est extrêmement puissant, premièrement. C'est vrai que bah, le fait que ce soit un gabarit monstrueux, ça l'aide pas mal. Il est assez idéal à placer sur le jeu de course. Il est agressif, il est tenace, justement, il tient bien ses blocs. Il est fini souvent. On a vu quelques pancakes, justement. Le terme, justement, c'est quand il met le défenseur sur les fesses. Il a des très longs bras aussi, des mains violentes. On aime bien en parler de ses mains violentes. C'est vrai que quand il met une tarte, en général, ça arrive assez au bon endroit. Il est difficile à déplacer aussi. Sur le pass pro aussi, c'est difficile de le déplacer. En tout cas, le bull rush, c'est pas quelque chose qu'il va falloir forcément faire contre lui. Ça va pas servir à grand chose. Il est assez patient comme joueur, justement. Souvent, il arrive à se positionner, il recule un tout petit peu sur le pass pro, et puis il attend le bon moment pour attaquer son vis-à-vis. Après, forcément, ben, du fait que c'est un très gros gabarit, ben, c'est pas le plus mobile. Après, ben, il y a aussi le fait que il a un petit peu de soucis face aux recherches qui sont rapides, des recherches qui sont très techniques, qui ont des mouvements justement plutôt, ben, qui sont pas du bull rush. Donc c'est vrai que ben, il arrive à en contrer certains mouvements, mais pas tous, et justement surtout la rapidité. Moi, je pense honnêtement qu'il est presque trop lourd, en fait. Il gagnerait peut-être à perdre 7-8 kilos, quelque chose comme ça. Ça enlèverait pas forcément de sa puissance, je pense, mais peut-être que ça lui permettra d'être un petit peu plus mobile, parce que j'ai l'impression que ça le pénalise un petit peu dans ses déplacements. Et puis, c'est vrai que bah, ça va probablement être un right tackle, donc un tackle droit en NFL, parce qu'on sait déjà pas trop ce qu'il vaut en left tackle. Et finalement, est-ce que c'est vraiment un problème? Parce que si on veut vraiment une équipe qui veut du jeu de course et qui veut installer sur le jeu de course, avoir un bon tackle droit, ben on sait que c'est important. On le voit avec les Eagles, par exemple, des choses comme ça. C'est pas forcément, comment dire ça, quelque chose de péjoratif de pas être un left tackle, mais il faut le savoir et puis il faut l'utiliser pour ce qu'il est.
Oui, c'est ça exactement. De toute façon, les edge rushers, ils attaquent des deux côtés, donc il faut deux bons tackles. On valorise toujours le tackle gauche parce que ben, le tackle gauche, ça protège le côté aveugle. Le côté aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grande majorité des quarterbacks sont droitiers, donc au moment de lancer, forcément, ils tournent leurs épaules vers la droite, leurs hanches vers la droite, et donc leur champ de vision sur la gauche est un peu plus limité. C'est pour ça que c'est très important de les protéger sur la gauche, mais il faut les protéger également sur la droite. Après, voilà, Dawan Jones, comme tu l'as dit, il est très très puissant. Et puis, vu qu'on parle de l'allonge, on a commencé comme ça avec Skoronski, puis Johnson, et donc Dawan Jones. Alors lui, c'est simple, c'est la plus grande envergure jamais mesurée en 75 ans de Senior Bowl. Et pourquoi c'est important? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est déjà au niveau du premier contact, voilà, un petit peu comme l'allonge d'un boxeur, d'un judoka, mais c'est également important ensuite. Tu disais, il a un petit déficit de vitesse, mais il a des bras tellement longs que même s'il commence à être un petit peu dépassé par l'edge rusher qui commence à le prendre de vitesse, eh bien, il allonge ses bras, il arrive quand même à pousser du bout des bras, des bouts des mains son edge rusher et le faire dévier de sa trajectoire, et ça permet au quarterback souvent de s'échapper. Donc voilà, ses longs bras, ben, ça sert aussi pour ça. Après, effectivement, ça a l'air plutôt d'un joueur pour jouer à droite, ce qui peut limiter un tout petit peu sa cote à la draft. Mais bon, après, qui sait? Parce que au niveau gabarit, ben forcément, on pense à Trent Brown. Voilà, Trent Brown des Patriots, c'est le même gabarit, la même masse, le même Golgoth. Et puis Trent Brown, on a bien vu que au bout d'un certain temps en NFL, ben, il a pu tout à fait jouer sur le côté gauche. Donc pourquoi pas Dawan Jones? À voir. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très beau candidat. Je vais enchaîner également avec un super joueur. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'appelle Broderick Jones et il nous vient de Georgia. Alors, Broderick Jones, c'est un C'est un left tackle qui est très athlétique. Voilà. Alors ça, c'est vu sur le terrain et il a confirmé lors du NFL Combine. Voilà. Allez voir les temps qu'il a fait sur les ateliers. C'est tout simplement impressionnant pour un joueur de ce gabarit-là. Il est hyper athlétique. Et donc, ça s'est vu sur le terrain. Moi, quand je vois jouer Broderick Jones avec Georgia, en fait, il me fait penser à un boxeur. Mais alors là, je parle pas d'allonge. Je parle de son jeu de pied. Vous savez, alors je vais pas aller jusqu'à Mohamed Ali, mais je sais pas, un Oscar de la Hoya. Je suis désolé, mes références boxe sont un petit peu vieilles, mais voilà, ce type de boxeur qui bouge tout le temps ses pieds, qui est tout le temps en action, qui est tout le temps dans le mouvement, ben voilà, c'est ça Broderick Jones. Lorsque l'edge rusher arrive sur lui, il est tout le temps en mouvement. Lorsque le gars bouge, il bouge aussi, etc. Il a vraiment un jeu de pied incroyable. Il est très très agile, donc il est très mobile pour tout ce qu'on appelle le miroir, c'est-à-dire être le miroir de l'edge rusher, pouvoir vraiment le suivre dans tous ses mouvements, et puis également pour décrocher sur le second rideau en situation de course. C'est vraiment de quelqu'un de très intéressant pour ça. Et puis lui aussi, il a les mains violentes, il est agressif dans le bon sens du terme, donc il a vraiment beaucoup de qualités. Après, il a un peu le même problème qu'a eu Paris Jones à Ohio State, c'est-à-dire qu'il est arrivé à Georgia, et là aussi, il a dû patienter. Voilà, il a dû patienter derrière des tackles qui étaient déjà là, par exemple, Jamari Sawyer, qui est aujourd'hui aux Chargers, c'était lui le tackle gauche en 2021. Broderick Jones a juste pris la place lors de la finale universitaire 2021, puis pour la saison 2022. Mais du coup, il manque un petit peu de situation de jeu et des fois, ça se voit. Voilà, des fois, ça se voit parce que le placement des mains n'est pas idéal, pas optimal. Et puis, on le sait, en NFL, il n'y a que des defensive ends très expérimentés, très intelligents. Donc, il va se faire balayer les mains ou alors il va se faire feinter aussi. Lorsque un defensive end, le feint d'attaque à l'extérieur et repique à l'intérieur. Et là, on voit que des fois, il est en difficulté. Pas parce qu'il peut pas, parce que son mobilité latérale est excellente, mais parce que il s'est fait surprendre. Voilà, c'est un petit manque de situation de jeu. Et ça, malheureusement, pour la position de tackle offensif, ben, c'est une position ingrate, parce que voilà, un tackle offensif, il peut réussir 50 snaps dans un match, les faire très bien ces 50 jeux. S'il se fait avoir, ne serait-ce que sur 2 jeux dans un match, mais que ces 2 jeux provoquent un sac, ben, à la fin du match, tout le monde dira, il a fait un très mauvais match. Donc c'est une position plutôt ingrate, où il faut être vraiment très très constant, très constant, très constant. Mais Broderick Jones, je pense que avec une année de développement, il peut être titulaire de la première année, mais voilà, la première année, on sait que ça ne sera pas parfait. Avec une année de développement, ben ça peut faire quelqu'un un petit peu comme un Christian Dariso des Vikings, qui lui aussi a eu besoin de cette petite année où il était moyen, correct, etc. Puis dès la deuxième année, il était extraordinaire. Moi, je pense que Broderick Jones peut être ce type de joueur-là en NFL.
Oui, bah, tu as fait des parallèles avec Paris Johnson. C'est vrai qu'il y a... Ben en fait, c'est le fait qu'il soit un petit peu techniquement brut, enfin pas techniquement brut, mais que justement il fasse encore un petit peu des erreurs justement d'inexpérience. Ça, c'est vrai que ça se voit un petit peu. Je crois qu'il a que 19 titularisations en tout, donc ça fait quand même peu. Il faut quand même prendre ça en compte. Maintenant, bah oui, comme tu dis, tu parlais de Christian Dariso, voilà, comme Paris Johnson, on voit un petit peu aussi. Ben, on s'attend à ce qu'il y ait une année d'adaptation, peut-être deux, mais il y a vraiment du potentiel et c'est des choses qui sont totalement coachables. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une cote pareille. C'est parce que c'est tout des choses qui sont coachables. C'est pas il manque pas d'athlétisme, il manque pas de long bras, il manque pas de QI football, d'après moi. Parce que justement, s'il arrive à le produire sur quelques snaps ou sur des séquences, à terme, s'il l'entraîne beaucoup, il va pouvoir le faire sur des plus longues périodes et potentiellement sans faire quasiment d'erreur.
Oui, exactement. Et on va continuer dans cette QV qui est vraiment très, 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 très belle avec un autre joueur que j'aime beaucoup également. Il s'appelle Darnell Wright et il nous vient de Tennessee.
Oui, alors c'est vrai que lui, il a un parcours un petit peu particulier, on va dire. Il a été tackle droit en 2019, 2020 et 2022. Et puis, il a été left tackle en 2021. Du coup, ben... Lui, on sait peut-être un petit peu plus, justement, je parlais de Dawan Jones avant, qui était surtout et uniquement tackle droit. Lui, on peut se demander quel est vraiment son poste. Mais finalement, de nouveau, est-ce que c'est vraiment un problème? Parce qu'on a besoin d'un bon tackle droit. Donc, s'il faut un tackle droit à une équipe, ils le drafteront comme ça. Voilà. Moi, je pense que c'est un plus à son profil. Une chose qui joue en sa faveur aussi, c'est le fait qu'il ait joué dans la meilleure conférence universitaire. Il a joué contre les meilleures attaques. Il a vraiment pu jouer pendant 4 ans contre ce qui se fait de mieux. C'est un joueur qui est très puissant. Il crée beaucoup de brèches dans le jeu de course. De nouveau, les fameuses mains violentes. Mais je trouve que lui, c'est particulièrement visible. Il arrive souvent, ou en tout cas, il arrive sur beaucoup d'actions à diriger son défenseur où il veut avec un coup, en fait. Il le désarçonne direct, et puis en fait, après, il a gagné l'action. Ça, après, il va falloir peut-être le faire encore plus souvent, et peut-être justement de donner moins gros coups et être plus prêt, parce que des fois, il se fait un petit peu avoir aussi. Mais c'est vraiment un truc qui le démarque, c'est qu'il a vraiment une puissance dans ses mains qui permet de désarçonner ses vis-à-vis. Je trouve qu'il s'ancre bien, justement, tu parlais de Lanka avant. Bah ça, c'est vraiment important aussi. Il est très fort face au bull rush. Ça va pas être la solution face à lui. Justement, il va falloir faire preuve d'un peu plus de finesse. Et puis, la finesse, c'est un petit peu ce qui lui pose un petit peu plus problème. En tout cas, la vitesse et la finesse, il a un petit peu plus de peine par rapport à ça. Surtout la vitesse, on va dire. Il est souvent trop haut sur ses appuis. Et puis, du coup, il donne un petit peu l'opportunité aux défenseurs de le saisir et puis du coup de le passer. Je trouve qu'il donne un petit peu trop de surface au pass rusher, des fois. Et puis, il manque un tout petit peu d'explosivité, je trouve aussi. C'est pas forcément le joueur qui va aller décrocher et puis qui va aller faire des blocs ailleurs. En tout cas, c'est pas ce que j'ai vu. Et puis, il est un petit peu raide dans ses déplacements, je trouve, des fois. Donc voilà, il a quelque chose à modifier. Mais c'est quand même un joueur très solide.
Oui, de toute façon, on parle de rookie. Voilà. Donc forcément, ils ne sont pas parfaits. Ils ont encore des choses à travailler. Mais tous les défauts qu'on vous donne pour ces joueurs-là, ce sont vraiment des défauts à la marge. C'est-à-dire, quand tu dis qu'il manque de vitesse ou qu'il est un peu raide ou qu'il joue trop sur ses appuis, n'imaginez pas que c'est comme ça à chaque jeu et que donc du coup, à chaque fois, il va se faire voir. Pas du tout. C'est un petit peu à la marge, des choses à améliorer pour être plus constant. Parce que l'un dans l'autre, voilà, Darnell Wright, et comme tu l'as dit, il a eu une opposition, la plus grosse opposition au niveau universitaire, conférence SEC. Et d'ailleurs, cette année en 2022, s'il pouvait voir ne serait-ce qu'un résumé du match Tennessee-Alabama, il y a eu beaucoup de choses à regarder dans ce match, mais essayez de fixer votre regard sur ce duel entre Darnell Wright, le tackle droit, et Will Anderson. Voilà, Will Anderson, donc l'edge rusher numéro 1, rapide, fluide, etc. Darnell Wright a dominé Will Anderson dans ce match la plupart du temps. Donc c'était incroyable de le voir faire ça. Donc même face au pass rusher rapide, il arrive la plupart du temps également à s'imposer. Ce qui est impressionnant avec lui aussi, c'est son gabarit. Son gabarit, il est plus costaud que tous les tackles qu'on a cités jusqu'à présent. Il est vraiment très costaud et en même temps, il est athlétique. Alors j'irai pas jusqu'à le comparer à un Tristan Wirfs des Buccaneers, par exemple, qui lui est vraiment hors norme dans la catégorie. Très imposant et très athlétique, mais quelque part c'est un peu ce profil là un peu similaire, et puis y compris dans son habilité à jouer soit à gauche soit à droite. Donc c'est vraiment un joueur très très intéressant, Darnell Wright. Il est pétri de qualité. Pour moi, c'est un titulaire dès la première semaine, avec après évidemment c'est un rookie, il faudra un petit peu de temps pour corriger les petites choses. Mais quel joueur, Darnell Wright, lui aussi c'est vraiment un candidat pour le premier tour de la draft. Et je vais enchaîner avec un autre candidat pour le premier tour de la draft. C'est incroyable, cette année il y en a vraiment beaucoup. Il s'appelle Anton Harrison et il nous vient de l'université de Oklahoma. Alors Anton Harrison, lui aussi, c'est un joueur qui est très athlétique, voilà. C'est-à-dire qu'il est rapide, il est fluide de mouvement, et donc du coup, en protection du quarterback, il est très très bon. Je parlais de savoir faire le miroir tout à l'heure, alors voilà, lui, c'est le miroir des pass rushers. Il essuie de partout, il les laisse jamais passer, ou très rarement. Il est vraiment très agile, et voilà, en protection, c'est vraiment un super joueur. Ensuite, il a également un combo puissance-mobilité très intéressant, parce que même dans le run, même lorsqu'il se fait attaquer en puissance, il sait répondre. Et donc du coup, il est précieux dans les deux aspects d'une attaque, que ce soit protéger le quarterback en situation de passe ou que ce soit pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol. Il est très intelligent également dans toutes ses prises d'angle, et là aussi dans les deux domaines, que ce soit pour protéger le quarterback ou en situation de course, que ce soit pour décrocher ou que ce soit en situation de zone. Voilà, vous savez, les systèmes de course en zone, donc du coup il se déplace avec ses autres linemen offensifs. Il est vraiment très très bon à ce niveau-là. Après, je trouve que peut-être par rapport à d'autres, par rapport par exemple à Darnell Wright, il manque encore un petit peu d'agressivité au contact, parce que, c'est ça, dans les tranchées, c'est ça, c'est des 1 contre 1, il faut vraiment aller au mastic. Je vais pas dire c'est la guerre parce que c'est pas un terme très joli, mais c'est vraiment le combat. Voilà, c'est un combat, et parfois il manque un petit peu de cette agressivité là. On sent pas un joueur méchant dans le bon sens du terme, et il va falloir qu'il travaille un petit peu ça, parce qu'en NFL il va rencontrer des defensive end méchants, des Miles Garrett qui vont lui rentrer dedans comme ça. Il va falloir qu'il réponde à cela, mais il a vraiment énormément de qualité. Je veux dire, c'est un potentiel un petit peu, moi il me fait un petit peu penser à un Ronnie Stanley à sa sortie de Notre-Dame. Voilà, ce joueur comme comme ça, très technique, très mobile, qui manquait un petit peu d'agressivité. Mais voilà, quel joueur, Ronnie Stanley, sans les blessures en plus, ça serait encore mieux que ça, mais quel joueur déjà. Anton Harrison, c'est un très beau candidat pour le premier tour également.
Oui, alors c'est vrai, ben, en fait, t'as tout dit. Moi, c'est vrai que je le trouve aussi un petit peu tendre, on va dire, si on peut utiliser ce terme, parce que c'est pas vraiment un terme qui est très, très adapté au football américain, mais c'est vrai que ben, il a tout, il est athlétique, il a justement un super gabarit pour le poste, il n'y a pas de discussion, justement, comme on pouvait en discuter avant avec Peter Skoronski, il n'y a pas de discussion sur le poste, pour moi, ça tackle, c'est clair. Il est mobile, il sait faire quasiment tous les blocs, mais il va falloir justement être un petit peu plus méchant, comme tu dis.
Et tu vas enchaîner, Kevin, avec un autre prospect très intéressant. Lui, il nous vient de l'université de Maryland et il s'appelle Jalen Duncan.
Oui, alors de nouveau, ben, comme pour quasiment tous les prospects qu'on parcourt aujourd'hui, c'est un gars qui a un gabarit vraiment pour le poste de tackle. Il est relativement expérimenté. Il est, ben, en fait, il a fait ses 4 saisons titulaire à Maryland. Il est assez athlétique, il a un bon équilibre sur ses mouvements. Il perd rarement l'équilibre, même son vis-à-vis lui fait rarement perdre l'équilibre. Il est très à l'aise sur le jeu de course, surtout sur les blocs, on va dire, un petit peu rapides, où justement il peut se projeter, aller bloquer au deuxième rideau et puis ouvrir des brèches comme ça. Je le trouve assez explosif aussi, après le snap, justement, pour s'il a des mouvements à faire, s'il doit décrocher, s'il doit se déplacer. Il est rapidement sur ses appuis s'il est en pass pro aussi pour accueillir le défenseur pour justement pas être en retard sur le rush qui vient sur lui. Techniquement justement, je trouve que l'utilisation de ses mains est pas la meilleure. Elles sont souvent un peu trop à plat plutôt que justement vers le haut et puis sa position elle péjore un petit peu. Ça le déséquilibre un petit peu justement si il y a vraiment un gros pass rusher, mais ce qu'on sait, c'est que ben en NFL, il y a que des gros pass rushers quasiment. On va dire aussi la position du corps, elle est aussi un petit peu trop relevée, je trouve. Il perd un petit peu de la puissance au contact, je trouve. Et puis c'est selon moi un peu un projet. Il est assez expérimenté, mais ça reste un projet. Donc faut espérer que ce qu'on doit lui apprendre, ce soit justement ça puisse lui être appris. Parce qu'il a, il a que 22 ans, mais il a quand même 4 ans de titulaire. Donc, est-ce qu'il a atteint son plafond? Je pense pas. Mais est-ce qu'il peut autant progresser que ce que sa future équipe aimerait? On sait pas non plus. Donc, c'est un petit peu, justement, pour moi, un petit peu une énigme parce qu'il a des super moments. Souvent, il a un petit peu de peine à tenir ses blocs, je trouve. Justement, il manque un petit peu de, peut-être pas de ténacité, mais en tout cas, il manque peut-être un petit peu de technique pour s'en sortir quand il y a un joueur technique en face de lui. Voilà. J'ai l'impression qu'il a plein de qualités, qu'il y a plein de choses à développer, mais qu'il faudra un petit peu de temps aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Et on va terminer cet épisode avec une QV fantastique, parce que c'est encore un très très bon joueur, c'est Blake Freeland, il nous vient de BYU. Et donc Blake Freeland, lui aussi, alors c'est pas Dawan Jones non plus, mais alors qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est imposant, lui aussi c'est une sorte de montagne. Il est très athlétique, ça s'est vu aussi sur le terrain, il a concédé très très peu de pression, on l'a encore vu aussi au NFL Combine, il a confirmé ses qualités athlétiques, il est bon en protection, il est bon en décrochage sur le second rideau en situation de course. Voilà, c'est quelqu'un de très très intéressant, voilà, des aptitudes physiques comme ça. Quelque part, il me fait penser un petit peu à Colton Miller, le tackle des Raiders, ce joueur grand et très athlétique, il bouge très bien. Après, bon, Blake Freeland, voilà, il y a peut-être des choses qui jouent un petit peu contre lui. Déjà, BYU, c'est une université, voilà, contrairement à Darnell Wright qui jouait en SEC, contrairement à Broderick Jones également en SEC, ou à Paris Johnson et Dawan Jones qui jouent en Big Ten. Ben, lui, avec BYU, il n'a pas affronté les meilleurs pass rushers du niveau universitaire. Donc, à voir en NFL, il y a forcément une marge de progression. À voir également s'il arrive un petit peu à limiter ses pénalités. Voilà, il est un petit peu trop sujet au holding. Et ça, on sait qu'en NFL, ça va très vite, les holdings. Le jeté de mouchoir, le jeté de flag, les arbitres, voilà, ils y vont très vite. Donc il va falloir qu'il corrige un petit peu ça. Et puis il est très grand, donc forcément, ce qu'on appelle son pad level, jouer bas sur ses appuis, c'est pas toujours très très bien. Le côté, voilà, jouer vraiment bas, face à des edge rushers qui, eux, vont être capables de bien se pencher pour le contourner, il aura peut-être un petit peu plus de difficultés. Mais quand même, l'un dans l'autre, ce Blake Freeland, il a un sacré potentiel. Et quelque part, c'est lui aussi un candidat pour la fin du premier tour de la draft.
Oui, alors c'est ça, en tout cas on va dire un top 50 facilement. parce qu'on sait qu'en fin de premier tour, ça bouge pas mal, en début de deuxième aussi. Donc voilà, cette zone, on va dire 25-50, elle est très nébuleuse, on va dire. Mais ben moi, j'aime bien ta comparaison avec Colton Miller, parce que c'est vrai qu'il y a un gabarit similaire. Et puis, ben finalement, peut-être son parcours sera un petit peu similaire, dans le sens où Colton Miller n'a pas été productif dès le départ avec les Raiders. Et puis justement, il a travaillé, il a perfectionné un petit peu ben ses défauts, on va dire. Et puis c'est vrai ce que tu disais par rapport aux défauts, on en met souvent un petit peu en avant dans ces émissions, mais c'est souvent quand on parle de premier tour de la draft ou de début de deuxième tour, il y a pas beaucoup de défauts à remarquer. C'est juste que ben oui, quand on voit une mauvaise action, qu'est-ce qui a fait ça? Puis c'est là qu'on arrive à retrouver ces petits défauts. Mais c'est vrai que au total, ben voilà, on a des super joueurs, on essaye un petit peu de trouver ce qui va vraiment bien et ce qui peut faire un petit peu défaut.
Oui, voilà, exactement. Mais l'un dans l'autre, c'est vraiment une très très belle cuvée. Donc, on vous a parlé là aujourd'hui de 8 joueurs. Vous inquiétez pas, si vous écoutez ce podcast directement depuis votre plateforme audio, vous allez sur le site touchdownactu.com. Il y a un article pour le podcast et là, tous les joueurs sont vraiment énoncés un à un. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez les repérer, les noter, puis ensuite aller regarder un petit peu des vidéos de ces joueurs-là. Tout est bien confirmé. C'est une très très belle cuvée. On aurait pu parler d'autres joueurs comme Wanya Morris ou Carter Warren. Et puis, bien sûr, un petit coucou au Québécois Mathieu Bergeron. On espère, voilà, il va être drafté, ça c'est sûr. Et puis on espère qu'il tombera dans une bonne équipe. C'est vraiment une très très belle QV. Et puis voilà, pour la draft, écoutez, il nous reste encore deux positions. Vous retrouverez Grégory Richard et Niti Simuang qui vont vous parler des deux dernières positions qu'on n'a pas parlé. Ce sont les linebackers et ce sont les receveurs. Et là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis évidemment, les fiches draft qui ont commencé sur le site touchdownactu.com. Allez-y, tous les jours, un joueur. On est en plein draft process et voilà, c'est vraiment génial. Bon, ben merci Kevin pour cet épisode, c'était vraiment très riche.
Oui, c'est vrai que c'est une super cuvée. Et puis, ben, comme j'ai dit, toujours un plaisir de faire ces émissions de process pré-draft.
C'était vraiment un régal et on espère que ça vous a plu. Et donc, on vous donne rendez-vous pour encore des épisodes. Et puis, après ces épisodes de position, vous aurez un top 50. Vous aurez également les pastilles. Alors, les pastilles, c'est quoi? Ce sont des petits épisodes de 20 minutes sur une franchise. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire à la draft? Donc, tous les jours, vous aurez une pastille sur une franchise. Et évidemment, on fera les 32 franchises avec à chaque fois 4 joueurs. Donc, continuez à rester avec nous parce qu'il y a encore beaucoup de choses très intéressantes qui arrivent. Allez, ciao.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.